Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La Tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour, c'est BNP Paribas Banque Privée. Pour rappel, aujourd'hui, 25% des startups échouent dès les deux premières années de leur existence et c'est jusqu'à 50% au bout de 5 ans. Et justement, BNP Paribas Banque Privée a lancé plusieurs initiatives afin de les aider à consolider leur réseau et à adopter dès le début les meilleurs choix patrimoniaux. Le groupe BNP Paribas accompagne aujourd'hui un tiers des PME et deux tiers des ETI françaises, mais aussi 85% du Next 40 et 78% de la French Tech 120. Vous pouvez demander un rendez-vous avec un banquier privé sur leur site internet, rubrique « Prendre rendez-vous ». N'hésitez pas également à les suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram @partnerinbusiness, tout attaché. Encore merci à BNP Paribas Banque Privée de nous faire confiance et de nous permettre de vous proposer ce podcast. Bonne écoute à tous. Mini parenthèse, est-ce qu'il n'y a rien de plus dur que de monter ta première boulangerie? Est-ce que tout derrière, il y a plus dur quand même?
Ah non, tu veux dire qu'est-ce qui est plus dur par rapport à...
J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu ouvres ta première boulangerie, en tout cas dans ce que tu me dis, et que ça marche, tout est fait d'opportunités derrière. Mais c'est pas des problèmes. C'est pas tu te dis pas est-ce que je suis capable ou pas, tu te dis ah ça peut être intéressant, ah je m'ennuie avec ma femme au Japon, ouvrons une école. C'est tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Je sais pas si tu partages ça
toi. Si ne pas saisir les opportunités, alors là c'est une énorme erreur. Enfin, il y a pas de débat, ceux qui...
Mais il faut avoir un mindset.
Ouais, c'est ça. Exactement. Enfin, tu vois les trains qui passent et tu montes jamais dedans, il se passera jamais rien. Donc en fait des fois il y a des moi c'est toujours ce que je dis même à mes cadres. C'est il y a des trains qui passent, des fois c'est des trains pourris, mais si tu montes jamais dans les trains pour voir ce qui se passe, donc c'est des opportunités de marché, des opportunités de vie, ça peut être des rencontres ou du business ou quoi que ce soit. Là en l'occurrence, le Japon, il y a quelqu'un qui adorait la marque, qui avait 30 buildings, qui m'a payé les Renault et qui a dit tu te mets là, je veux que tu sois là. En fait, on mettait les pieds sous la porte avec une boutique neuve, bon, on a dit ok, on y va. Donc tu vois, ça c'est typiquement une opportunité de rentrer sur le marché japonais qui nous a été donnée. T'aurais pu dire non, on a dit oui. Puis après, on a développé un petit peu l'enseigne là-bas. On pourrait en faire plus si on pushait.
Donc, d'où l'humilité. Et j'allais dire aussi, c'est être capable de négliger personne et en même temps de rebattre les caisses. Enfin, l'écart. Tout à l'heure, tu parlais de strat, mais ta strat, elle change tous les 3 mois, en fait.
Exactement.
Si je comprends bien.
Exactement.
Et c'est ça qui t'anime de tous les jours te dire, il peut se passer une dinguerie.
Moi, négatif. Je pense que les mecs, ils cherchent de la... En fait, c'est des aventuriers qui cherchent à vivre une vie intense, mais qui sont beaucoup plus réfléchis que ce qu'on pense. Ils te qualifient d'artiste, de machin, de chaque fois, tu vois. On est souvent beaucoup plus prudents que ce que les gens pensent. Et c'est des pas. Enfin, il y a de l'extérieur, t'as l'impression que c'est feu follet, mais en fait, c'est beaucoup plus posé, maturé que ce que les gens pensent. Non, ça veut dire que tes moves. Parce qu'en fait, les opportunités marché, des fois, tu vas très vite, il se passe des choses, boum, boum, boum. Et les gens disent, ouais, putain, on n'a pas fait ça dans les BP, machin, qu'est-ce qui nous fait le boss? Mais en fin de compte, c'est des moves qui sont pesés, sous-pesés, c'est ça, je veux dire. Tu mets pas en risque la boîte entièrement quand tu vas faire des moves et que t'es lancé.
Bien sûr.
Tu te mets en risque, mais un risque qui est pesé et sous-pesé.
Et est-ce que, même si dans ça, on parle pesé, sous-pesé, j'ai presque l'impression qu'il y a du pragmatisme, est-ce que par moment, on parle d'intuition, on parle de tout ça enrichi par tous les trains dans lesquels tu rentres, mais que tu vas pas prendre au final, enfin que tu prends, mais que tu vas sortir à la prochaine gare. On va arrêter avec ces métaphores, mais est-ce que ça nourrit ton gut feeling? Est-ce qu'il y a des décisions que tu prends et tu saurais pas l'expliquer?
Bien sûr, et c'est celles qui m'ont fait gagner le plus d'argent et c'est celles qui ont permis de twister le groupe le plus fortement quand c'était pas des tableaux croisés dynamiques.
Et qui t'anime le plus ou pas?
Bien sûr, parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus fort. C'est ça la différence.
Vie est un jeu.
Aujourd'hui.
À part ta fille, c'est ça, t'as une fille?
Ouais, j'ai une fille, ouais.
Apparaît le risque au quotidien, tu le vois dans quoi, toi?
Non, je suis. Non, non, il n'y a pas de, je suis pas un gambler ou tu vois, je vais pas, non, il n'y a pas de choses comme ça à côté dans ma vie.
Quand je disais risque, c'est plus négatif, mais en mode,
ah, les, si, ouais,
tu
ouais,
vois,
d'accord.
Où
Si,
est-ce que tu pourrais perdre, où est-ce que,
ah,
est-ce
ouais.
que tu le vois comme ça, ou est-ce que au
Oui.
contraire, t'es très optimiste, positif,
Ça dépend des sujets.
Bon, ça va, t'es de bonne humeur, là.
Ouais. Il y a des sujets, je suis optimiste, il y a des sujets un peu moins. Enfin, je pense que tu te bats contre toi-même à essayer de positiver et être optimiste sur les sujets qui sont un peu anxiogènes. J'ai des, sur le côté business, en fait, non, j'ai jamais été anxieux ou pessimiste. Vraiment, vraiment, vraiment jamais. C'est pas mon mindset. Sur d'autres sujets un peu plus contemporains, oui.
Ok.
D'ailleurs, c'est pas ma nature profonde, mais pour le coup, c'est un peu, il y a des sujets qui m'animent beaucoup. Mais sur le sujet biz, non, je suis optimiste, ouais. Sinon, tu fais pas ça.
On va rentrer dans ce qui t'anime justement, parce que je pense que c'est encore un plateau que tu as atteint
Ouais.
pour pouvoir passer à
Ouais.
l'étape supérieure. Tu me vois venir, mais
Ouais.
typiquement, vouloir créer des œufs à partir de plantes, du coup, c'est ça?
Ouais, c'est des protéines
Donc,
végétales.
des protéines végétales. Est-ce que quelqu'un t'en a parlé, opportunité, et très vite ça a germé dans ta tête, ou est-ce que au contraire, et est-ce que même si c'est le cas, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Il y avait combien de boulangeries déjà? Donc c'était il y a 4 ans. Vous étiez à combien de boulanges là?
Il y avait 25 maisons lendemain, il me semble.
Donc il y en a 10 qui sont montées entre-temps, mais 25, c'était une taille critique pour toi. Est-ce que ton quotidien était trop, tu vois,
Ouais,
c'était.
trop chiant.
Ouais, je
C'est pas.
osais le dire, tu cherchais de nouveaux
Ouais, c'est possible.
challenges.
Non, en fait, moi, quand j'ai adopté ce régime végétalien, il y a 10 ans, j'ai adopté un
Ok.
régime vegan. Il s'est posé beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup de questions à moi. C'était un vrai changement de paradigme pour moi. Et en fait, la porte d'entrée sur ces sujets, tu sais, éco, elle est rentrée par la porte du véganisme où j'ai découvert tous ces sujets de ressources planétaires, limites planétaires, climate change, collapse de la biodiversité, tous ces sujets-là.
Ça, c'est que du perso, rien à voir
Ouais,
avec le
ça,
business. Ok.
exactement. Mais ça a fait évoluer ma conception des affaires. C'est ça que je veux
Évidemment.
dire. Parce qu'avant, j'étais focus sur, je crois, de la valeur. Enfin, je suis un businessman. Point final, je fais
La
des
valeur, c'est de
affaires.
l'argent.
Et après, je découvre ces sujets-là et je dis, ouais, là, il y a un sérieux problème, tu vois. Et donc, je commence à décortiquer tout ça, à me rendre compte que l'assiette, c'est prépondérant dans les gestes citoyens, que c'est un vrai sujet, la façon dont les gens se restaurent, et que moi, j'appartiens à cette branche qui est prépondérante, puisque la moitié des gestes éco-citoyens, pratiquement, c'est l'assiette. Et donc, je me dis que j'ai aussi, moi, un rôle en tant que citoyen, bien sûr, puisque j'adopte un régime végétal, mais en tant qu'entrepreneur, de porter des sujets qui sont en lien avec ces sujets de transition alimentaire. Et c'est là qu'on parle tout à l'heure d'intuition, aussi de créativité, etc. Et me vient l'idée de faire bifurquer l'entreprise vers ces sujets de transition alimentaire avec plus de végétal, avec cette idée saugrenue à la base de monter une boulangerie-pâtisserie 100% vegan. Et donc, pour répondre à ta question, c'est en travaillant sur cette idée-là que je m'aperçois qu'il y a un vide sur les œufs, qu'il y a des.
La
Qu'il n'y a pas de
techno n'existe
ressources.
pas.
Non, il y a rien qui existe qui facilite le chef qui va vouloir créer des recettes végétales. Et donc, une idée, une boîte, hein, c'est un peu ça. Donc, je dis, bah, je réunis des ingés agro et on bosse. Enfin, je leur dis, est-ce que tu penses que c'est envisageable? Et il me dit, et voilà, donc on monte une entreprise, on fait 3 ans de recherche et développement.
Comment tu vas chercher ces ingés agro? Ton
J'avais
réseau?
bossé sur un bouquin avec une ingé agro. Et c'est elle que j'étais voir en lui disant, bon, écoute, j'ai envie de monter un truc comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, ouais, il existe des choses qui fonctionnent, etc. Et donc, comme elle avait sa boîte et moi la mienne, on s'est mis en recherche d'un CEO, de quelqu'un qui allait tracter la boîte. Et donc, après, on a monté cette entreprise et on s'est avec pour mission de créer une solution aux œufs, une solution végétale aux œufs. Voilà, donc.
Elle n'est pas exclusive à Maison Landman, demain?
Non,
Non?
elle n'est pas exclusive. On la commercialise. On est dans 12 pays maintenant.
Ok.
On est à une dizaine de collaborateurs.
Ok.
Et je te disais, on est en série A pour continuer à faire croître l'entreprise. Donc, une start-up, c'est une idée, d'abord une idée. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur les affaires, parce que moi, je faisais des affaires de façon assez, entre guillemets, basique.
Bah, j'allais te dire, tu vois une différence
Voilà. Et
avec
là, c'est
aujourd'hui
une.
la
Ouais, là, c'est
start-up?
ça. Tu pars d'une
Tu
idée.
préfères ou pas? Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais
Non,
tu
non, non,
pars
non,
d'une idée, tu
c'est pas
disais?
que je. En fait, il y a des. Ce que j'aime, enfin, ce que j'aime pas dans le monde de la start-up, c'est que. Espèce de jargon et d'entre-soi.
C'est toi qui as dû disrupter au début, hein,
Ouais,
c'est
c'est
pas
ça.
moi.
Mais en fait, les mecs, ils sont obnubilés par la levée de fonds. t'as l'impression qu'une boîte tourne que par c'est la levée de fonds. C'est une finalité dans leur business. Et moi, j'investis dans des boîtes aussi, mais je leur dis, mais putain, mais mec, si t'as pas besoin de lever des fonds, lève pas des fonds. Arrête de vouloir lever des fonds, tu vois.
Ça te fait chier là de lever des fonds.
Mais non, c'est pas ça, c'est que des fois t'en as besoin. Mais en fait, les gars, maintenant tu regardes les entrepreneurs,
c'est un moyen.
Ils se mettent tout de suite en mode levée de fonds. Donc en fait, ils donnent du capital trop rapidement. Beaucoup trop rapidement.
C'est le plus important pour toi le capital?
Mais non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, si t'as une vision long terme, une croissance elle est exponentielle. Donc ton premier million d'euros, c'est 10 ans pour le faire. Mais nous, on est passé de 40 à 50 en un an. Donc c'est un croisement, un développement, c'est exponentiel. Donc si t'es patient, tu vas y gagner dans le long terme à être patient et à faire croître ta boîte en ayant une vision long terme. Et comme eux, ils veulent faire levée de fonds, exit, parce que c'est ça leur truc. Mmh. C'est cool quand ça marche bien et que c'est de la tech et que ça se développe super vite. Mais déjà en termes de stats, c'est pas énorme. Il y a pas beaucoup qui arrivent à vraiment faire ça. C'est moins de 5%. Et parfois,
enfin de ceux qui lèvent peut-être, ouais.
Voilà.
Et déjà, il n'y en a pas beaucoup qui lèvent, mais ouais.
Et moi, je suis peut-être un peu plus vieux, mais par contre, j'ai une vision de l'entreprise plus à long terme et pas de faire lever, exit.
Bah donc du coup, pas d'exit dans tout ça pour toi.
C'est
quoi l'objectif, si tu veux nous expliquer un petit peu à travers.
Bah déjà, moi, je suis aux manettes du groupe depuis 16 ans. Donc déjà, c'est long dans le milieu de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Les mecs, ils font des fois, ils font un exit en 5, 7, 8 ans, tu vois, ils vont très vite.
Mais si on décorait le Maison Landman, et justement, j'ai oublié le nom, je suis désolé.
L'NL Monkeys? La boulangerie? Yumgo? La startup? Yumgo.
Yum pour yummy, yummy. Et go pour?
Tamago, c'était sûr.
Tamago, c'est ce que tu Yumgo. M'as dit tout à l'heure. Mince, j'ai pas la meilleure des mémoires. Passons donc. Yumgo. Ouais, c'est ça, faut l'afficher. Et, oui, juste comprendre, si tu sépares de Maison Landman, ouais. Est-ce que t'as un... Ou en fait, c'est pas séparé pour toi, concrètement? Est-ce que c'est séparé du groupe?
Si, c'est séparé. Tout est des initiatives.
Tu pourrais le revendre demain à 100% et quand même t'approvisionner auprès de...
Oui, bien sûr.
Ok.
C'est séparé.
Donc, c'est une strate différente.
C'est une strate différente.
T'as une vocation à la revendre?
Bah, déjà, t'es pas seul aux manettes. Donc, c'est un espèce de consensus un peu différent. Puisqu'en fait, là, pour le coup, tu apprends. Moi, je suis... le boss des autres boîtes que j'ai montées. Mmh. Là, j'ai un cofondateur. Donc, c'est pas la même chose déjà. Quand tu montes une boîte à deux, j'ai appris à apprendre à faire plus de consensus. Quand t'es tout seul aux manettes, tu dis ça va être à gauche. Et tu vois,
autant impliqué, mais tu sens que t'as moins la main.
C'est pas autant la main, c'est que si c'est pas la bonne personne, franchement, c'est difficile d'opérer puisque tu as une team. Tu vois, c'est pas les mêmes.
Mais même le pouvoir décisionnel, si j'ai bien compris, il est pas que dans tes mains, il est aussi dans ceux de tes cofondateurs. Qu'est-ce que ça
implique
pour toi, par rapport aux autres expériences que t'as eues?
Moi, c'est ce que je te dis. Toutes ces expériences, pour moi, elles me font progresser en tant qu'homme et en tant qu'entrepreneur. Donc, en fait, j'adore me mettre dans une situation qui est inconfortable parce que ça me permet d'apprendre des nouvelles choses. Et donc là, toutes ces choses-là qu'on apprend avec la startup, espèce de consensus, de partager la décision, de lever des fonds, etc., d'avoir des actionnaires au board, un board, des choses comme ça, c'est des choses qui sont ultra, qui sont nouvelles pour moi et donc qui demandent une autre, pas d'autres aptitudes, mais un autre comportement, une autre façon de faire.
Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao !